philo. L'heure philo sur France Inter jusqu'à 21h. Karen Deux à la réalisation, Chantal de Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Michel Bézikian aux manettes. Étienne Balibar est ce soir notre invité. Le troisième tome de ses écrits est publié aux éditions La Découverte. Depuis des années, Étienne Balibar, à travers ses écrits précisément, des conférences, des exposés, des études, tente de brosser le portrait de notre époque, on serait tenté d'appeler cela biographie du temps présent, des régressions nationalistes à la citoyenneté, des inégalités à l'identité, des frontières à la peur de l'autre. Votre réflexion, Étienne Balibar, se creuse et s'enrichit au gré du temps qui passe.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir à vous.
Bonsoir madame, merci infiniment de votre invitation.
Eh bien, figurez-vous que c'est simplement nous qui sommes honorés de vous recevoir dans l'heure philo, et je ne dirais pas que vous êtes l'un des plus grands philosophes de notre époque, parce
que
je sais...
J'espère que vous ne
direz pas... Non, je ne l'ai pas dit, parce que je sais que ça vous déplaît. Alors, un mot du titre de ce volume, cosmopolitique, qui est à la fois un adjectif et un substantif, que signifie-t-il pour vous, ce mot ?
Il ne faut pas que je fasse une dissertation.
Non, mais vous pouvez quand même vous expliquer.
Oui. J'ai repris ce terme à deux de mes amis, assez différents l'un de l'autre, mais il est en circulation depuis un certain temps, que je vais saisir l'occasion de mentionner. L'un d'eux est le philosophe français Étienne Tassin, qui hélas est mort de la façon la plus stupide qui soit il y a trois ans, renversé par une voiture, et qui avait publié un livre intitulé au singulier « Cosmopolitique des conflits ». Et puis d'autre part, un collègue et ami américain qui s'appelle Bruce Robbins et qui, avec un co-auteur, a publié il y a quelques années un recueil sous le titre « Cosmopolitics » en anglais. Bon, alors évidemment, comme vous l'avez dit, dans certains cas, il s'agit d'un adjectif. Bon, mais ça, c'est classique. Kant est connu pour être le père d'une théorie du droit cosmopolitique dont le noyau est l'idée que l'hospitalité doit être l'institution et en même temps la vertu, on pourrait dire, fondamentale autour de laquelle s'organisent les relations à l'intérieur de l'espèce humaine.
Mais quand il devrait s'organiser, parce que vous écoutiez les informations d'Alexandra de Boucheron à l'instant, et vous avez entendu, comme tous les auditeurs, j'imagine, ce navire humanitaire de SOS Méditerranée là, qui cherche un port.
Oui. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Une section de mon livre, pour lequel je ne fais pas de publicité, mais qui est lié à des engagements que j'ai pris déjà avec d'autres, bien sûr, depuis très longtemps, porte sur la question de l'hospitalité, précisément. Et la pièce centrale, ou en tout cas le point d'articulation, est une tribune que j'avais publiée dans Le Monde au moment où cette capitaine héroïque Carola Rackete de Sea-Watch, mais Ocean Viking, c'est très voisin, essayait, comme on dit, de forcer le blocus institué par les autorités italiennes devant l'île de Lampedusa pour débarquer.
Elle a eu des ennuis avec les autorités.
Elle a eu de très gros ennuis, et donc nous avions été quelqu'un à lancer une campagne de soutien, bien entendu, transnationale, et j'avais publié cette tribune sous le titre pour un droit de l'hospitalité, dans lequel, je vais revenir à la cosmopolitique, mais tout de suite, parce que c'est un exemple, au fond, privilégié, je vous remercie de l'évoquer, dans lequel je m'étais servi d'une terminologie à laquelle je tiens, mais qui est très difficilement traduisible. J'avais dit, il s'agit de cette partie mobile de l'humanité, de plus en plus importante, bien qu'elle ne représente en fait que quelques centièmes quand même de la population humaine, faite de migrants et de réfugiés, que les autorités de nos pays, avec, il faut bien le reconnaître, malheureusement, le soutien d'une partie relativement importante de l'opinion publique, s'emploient non seulement à repousser, mais d'une certaine façon à éliminer. Je suis même allé jusqu'à dire qu'il y avait des dimensions génocidaires ce qui est un peu risqué peut-être, mais qui, je l'espère, peut susciter la discussion. Donc j'ai décidé de les appeler les les errants, les associations de soutien à Calais, à d'autres ou à la frontière italienne, aux migrants et aux réfugiés qui essayent soit de franchir la frontière, soit tout simplement de survivre. Hein, utilisent souvent la terminologie des exilés qu'on écrit maintenant avec un point, enfin en écriture inclusive, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Bon, je suis pas du tout contre cette terminologie, mais je crois que c'est utile aussi peut-être, en plus de quelques connotations littéraires que certainement vous avez en tête, le juif errant, etc. Bon, de souligner qu'il y a là une catégorie d'êtres humains qui, en tant que tel et en raison justement de sa mobilité et du fait que elle apparaît comme indésirable ou comme gênante, fait véritablement l'objet d'une tentative d'élimination. Bon, alors c'est pas du tout le seul problème que je fais rentrer sous le chapeau général de cosmopolitique, mais c'est un de ceux qui évidemment sont les plus urgents et soulèvent aussi les questions philosophiques, morales et les plus intéressantes. Mais je sais que je parle trop, mais je finis en disant simplement.
Non, j'ai pas dit vous parliez. Non, mais
je me connais. je finis simplement en disant que si vous voulez, mon objectif c'est pas d'essayer de découper à l'intérieur du champ très général de la politique comme activité, comme institution, comme problème, un petit secteur particulier qui concernerait, ça c'était un peu Kant à certains égards, mais considérait certains des problèmes qui aujourd'hui se posent à toute l'espèce humaine et qui sont des problèmes de la mondialité, de la crise de la mondialité. Et c'est plutôt d'essayer de montrer que tous les problèmes qui sont vraiment importants pour nous, ceux qui concernent la citoyenneté, ceux qui concernent la violence, ceux qui concernent le rapport à l'autre ou à l'altérité, ont une dimension cosmopolitique qu'on ne peut plus contourner et que par conséquent il faut mettre d'une certaine façon au centre.
Étienne Balibar, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde et dans nos vies? C'est difficile à dire. Je crois que depuis que nous faisons cette émission depuis le mois de septembre, oui, beaucoup de philosophes nous parlent du principe d'incertitude, oui, qui n'a jamais été aussi grande, oui, cette incertitude. Oui. Et la pensée de ce qui est en train d'arriver est-elle seulement possible?
La réponse simple et obligée d'une certaine façon, c'est que elle est sûrement très difficile, mais que d'un autre côté, elle est absolument nécessaire. Hein. Mmh. Et je pense pas que ça soit un point de vue purement philosophique ou une attitude professionnelle ou une déformation professionnelle que de dire qu'on peut pas se résigner, enfin il me semble, à vivre dans un monde dont on déciderait une fois pour toutes qu'il est inintelligible, dépourvu de signification ou d'orientation. Bon, mais d'un autre côté, évidemment, je partage tout à fait le point de vue de ceux que peut-être vous avez interrogé. D'ailleurs, j'étais comme l'été dernier à Florence dans le Gers au festival des étoiles dont l'organisateur avait invité tout un tas de gens de différentes disciplines pour parler justement de l'incertitude. Bon, alors je confonds pas la question de la nécessité avec celle du progrès ou de la ligne d'évolution de l'humanité, mais évidemment moi qui ai eu dans ma jeunesse et qui conserve d'ailleurs à beaucoup d'égards des références dans la tradition marxiste, dans ces cas-là, je ne peux pas m'empêcher de penser toujours à une phrase célèbre en son temps de la préface de la contribution à la critique de l'économie politique de Marx, qui dit « L'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre ». Parce que si on y regarde de plus près, je cite de mémoire, on s'apercevra que dans les conflits, les contradictions, les tendances du monde présent figurent déjà les conditions de la solution. Et alors, évidemment, depuis des années, je dis à mes auditoires ou à mes étudiants, il fallait dire une énorme sottise et Marx l'a dit tout en tout. Enfin, sottise n'est pas le mot qui convient, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai et à quoi on ne peut plus croire, c'est ça. C'est pourquoi les références auxquelles je cherche à me rattacher, il y en a plusieurs bien entendu, quand il s'agit d'essayer d'articuler, je dirais, la morale, la politique et l'histoire, sont plutôt maintenant chez des philosophes comme ou des théoriciens comme Machiavel, Machiavel, par exemple, pour qui la dimension de la volonté, de l'effort, de la vertu, comme il disait, est évidemment centrale, mais s'adosse en contrepartie, évidemment, à ce qu'il appelait la fortuna, c'est-à-dire l'incertitude radicale des situations humaines. Mais l'incertitude radicale, ça ne veut pas dire que c'est pas la même chose que le chaos ou l'inintelligibilité. Ouais. C'est le fait qu'il y a toujours plusieurs possibilités à la fois, que par conséquent on n'est pas sur une voie de chemin de fer qui conduit ouais, vers l'avenir. Ouais. On peut et on est souvent tenté de se dire en effet que les voies sur lesquelles on roule mènent au pire. Il faut résister à cette espèce de pessimisme irrationaliste. Bon. Mais il faut évidemment savoir que les chances de s'en tirer sont faibles.
Alors, dans leur philo, nous aimons les archives, et c'est une chance que de s'appuyer sur elles. Il nous a semblé que vous aimeriez entendre Jacques Derrida.
Je suis voué à la multi... Alors, je ne vais pas dire multiculture, parce que c'est un mot impossible aujourd'hui, mais à la multi-appartenance, voilà. Je suis juif et grec. Je suis déconstructeur de la philosophie et philosophe. Je suis français et européen et quelquefois j'en appelle à un cosmopolitisme au-delà de la citoyenneté. Je suis pour le français, pour la langue française qui est la seule langue que je parle, que j'aime, la seule dans laquelle je puisse écrire, donc qui transite tout mon être. Mais je me méfie naturellement du gallocentrisme ou de l'enfermement nationaliste dans la langue. Je suis pour plus d'une langue, c'est une définition que j'ai donnée à la déconstruction, plus d'une langue. Je suis pour l'allemand, pour l'hébreu, pour l'italien et pour l'arabe. Et je regrette de ne pas parler toutes ces langues-là. Mais je ne veux pas renoncer, c'est ça, mon inconscient, c'est comme ça que Freud définit l'inconscient, c'est qu'il ne renonce à rien. Alors, mon inconscient ne renonce à rien. Et je ne renonce pas à la philosophie, je ne renonce pas au judaïsme, je ne renonce pas à l'Europe, mais je peux dire du mal de toutes ces choses-là.
Jacques Derrida qui tape sur la table en même temps qu'il parle. Vous n'avez pas, Étienne Balibar, vous n'avez pas toujours été d'accord, mais votre échange, en tout cas avec lui, a été permanent. Vous avez été son élève, puis vous êtes devenu collègue, et ce fut, on peut dire, un précieux ami.
Oui, un ami extraordinaire, pas un ami très facile.
L'êtes-vous vous-même facile?
Oh. J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Mais Derrida était un peu terrible, c'est-à-dire qu'il n'était pas un grand amateur de la critique. En théorie peut-être, mais en pratique les choses se passaient. Mais je dois dire que c'est je ne sais pas si c'est un privilège ou ça tenait au fait que j'avais justement été son étudiant et que donc on avait des souvenirs très anciens et qui nous étaient communs, plus d'autres même difficiles dans certaines circonstances de la vie. Mais le résultat, c'est que je me faisais pas clouer le bec purement et simplement. Je me souviens que je lui avais envoyé un texte où il était question de lui. Je m'étais risqué à parler de lui autour de la question de l'individualisme, de la propriété, de l'ex-appropriation. Il avait inventé, comme il le faisait souvent, ce mot valise apparemment contradictoire, destiné à montrer justement à propos de la langue qu'on ne s'approprie pas un instrument de communication, ce qui revient à enrichir d'une certaine façon, non seulement sa personnalité, mais sa puissance, sans être simultanément intérieurement exproprié ou porté hors de soi. Et alors, il m'avait dit « Je grogne, pour pas me dire que tu n'as rien compris, etc. etc. » Non, c'est vrai, je suis devenu avec le temps sans doute plus proche de lui que je ne l'avais été, et je continue de puiser dans sa philosophie une inspiration très précieuse. Par exemple, cette formule. Bon, alors, tout ce que vous venez de nous faire entendre va évidemment non seulement dans le sens du cosmopolitisme, mais dans le sens d'une philosophie de la différence comme noyau secret et indispensable de l'identité elle-même. Bon, c'est le refus de se laisser enfermer dans des catégories, tout en reconnaissant que il suffit pas de le dire et de le vouloir, parce que la vie, les institutions, oblige en fait à assumer des personnalités. On peut pas dire ah non, vous savez, moi je suis pas professeur, ou bien bon, juif, c'est plus compliqué.
Mais alors justement, comme lui en fait, Étienne Balibar, vous êtes voué en quelque sorte à la multi-appartenance de par votre histoire personnelle.
Bon.
Vos parents étaient français, mais du côté paternel. Vous avez eu un ancêtre juif d'Ukraine.
Oh, bah, c'est pas une tare.
Ah, mais j'ai jamais dit que j'en étais une. non, sûrement pas, non, sûrement pas.
Oui. Mais alors, en effet, du côté de mon père, sa famille était une famille de juifs ayant quitté l'Empire, ce qui était à l'époque l'Empire russe, tout de suite avant la guerre de 1914. 14. Dans le cas de mon grand-père, que j'ai pas connu parce qu'il est mort en déportation, et que donc, bon, au moment où je suis né, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, évidemment, enfin, dont j'ai entendu parler, les raisons de l'émigration étaient manifestement doubles. Et ça, c'est aussi intéressant. Mais c'est pas extraordinaire, c'est au contraire assez banal. D'un côté, naturellement, les pogroms, l'antisémitisme institutionnel de cette partie de l'Empire russe. Avec les Juifs, dans l'Empire russe, n'avaient pas le droit de s'établir, en tout cas les communautés, les collectivités paysannes, etc., au-delà d'une ligne qui coïncide à peu près avec celle avec la frontière où se joue la guerre en ce moment, c'est-à-dire celle qui séparait les parties occidentales de l'Empire, l'Ukraine, la Biélorussie, etc., la Moldavie, du cœur de l'Empire, c'est-à-dire de la Grande Russie. Bon, donc il fuyait les pogroms, et puis je pense qu'il fuyait aussi simultanément, ça c'était son choix, et je n'ai pas à juger, la pesanteur terrible des traditions religieuses, de l'éducation dont il voulait sortir, et c'est pour ça qu'à travers des détours variés, il a fini par atterrir en France, où naturellement il a été un immigré comme d'autres.
Et un autre ancêtre qui lui était au front pendant la guerre de 14, me semble-t-il.
Parce que dans les livres que je viens de publier, naturellement à 80 ans, on se contrôle plus tout à fait.
Mais pourquoi est-ce que ça vous gêne de parler de vos contraires? Je trouve ça très beau.
Ça ne me gêne pas
quand vous
tout.
Parlez de la forme de fraternité qu'on peut avoir avec l'ennemi. Nous avons du vin,
oui,
ils ont de la saucisse.
Vous voulez que je raconte de ça, oui. J'ai pensé à ça toute ma vie, oui.
Bah oui, ça veut dire que les guerres européennes font aussi partie de votre histoire familiale.
Mais elles font partie de mon histoire familiale, comme je pense qu'elles font partie de l'histoire familiale de tous les Européens. Hein, bon, et même alors la question de savoir qui est européen, non pas, je dirais, à titre légitime, mais par héritage historique et par aussi, je dirais, virtualité, si vous voulez, d'une communauté en effet nécessairement plurielle, multiculturelle, inévitablement conflictuelle, etc., est une question très très intéressante sur laquelle Derrida a écrit, et beaucoup d'autres aussi, et moi aussi j'ai essayé d'écrire. Bon, et alors à un moment donné, pour des raisons de conjoncture, ça remonte à quelques années, c'était le centième anniversaire de la guerre de 1914, je me suis dit on pourrait proposer la définition suivante: sont européens d'une façon ou d'une autre, à des degrés divers, et sans que ça soit exclusif, bien entendu, d'autres appartenances, tous les peuples ou tous les individus ou toutes les collectivités appartenant à des peuples qui ont fait la guerre de 1914. Et puis à ce moment-là, je me suis souvenu du texte de deux choses. D'une part, de l'ouvrage du grand économiste Keynes, tout de suite après la guerre de 14, justement, critiquant les traités de Versailles, annonçant les catastrophes qui allaient en découler, le nazisme, entre autres, etc. Et qui disait, vous allez trouver bizarre, c'est au début de son livre, j'ai toujours trouvé ça formidable, vous allez trouver bizarre que moi, un Anglais, je m'intéresse tellement à l'Europe, parce qu'évidemment les Anglais c'est pas l'Europe, c'est quoi l'Europe? C'est l'Espagne, c'est la France, c'est la Turquie, c'est la Russie, mais c'est pas l'Angleterre. Bon, mais en fait on est quand même dedans. Bon, et puis d'autre part, en effet, il y a cette anecdote que je cite à titre symbolique dans mon chapitre sur l'héritage sur les suites, les traces de 1914 dans l'histoire européenne. Alors c'est évidemment une histoire que je tiens indirectement, puisque mon grand-père Un ouvrier qualifié du Creusot avait été mobilisé au début de la guerre de 14 comme tant d'autres, envoyé au front, et il est mort dans une des batailles avec des centaines de milliers d'autres dans les tranchées là-bas. Bon, mais ma grand-mère m'a raconté qu'il lui avait lui-même raconté cette histoire, et ça figure dans les livres d'histoire aujourd'hui. Il y a même eu des films là-dessus. Bon, faut pas trop romancer la chose, mais elle est quand même bien réelle. C'est pas les mutineries, c'est avant. Il disait à un moment donné, un cessez-le-feu est ordonné de part et d'autre. Nous sortons de notre tranchée, nous passons les barbelés, on fait des signes, les soldats allemands sont de l'autre côté, ils font la même chose, on se retrouve au milieu, on sait pas les leurs, enfin je glose un peu, mais on peut pas beaucoup parler parce qu'on parle pas la même langue, mais on fait des échanges, nous avons du vin, ils ont de la saucisse. Et je trouve cette phrase prodigieuse de simplicité et en même temps de résonance tragique. Et puis ensuite on repart de l'autre côté, le lendemain on recommence à s'entretuer, et le cas échéant on meurt. Bon, mais c'est ça que l'Europe a en commun, et ça c'est un entre autres, hein, évidemment, bon, entre autres. Bon. Si je devais ajouter une troisième définition, j'y pense. Allez-y. À cause de la Russie aujourd'hui, je dirais aussi, parce que c'est quand même une dimension qu'il faut pas occulter, que l'Europe c'est ce qui a colonisé le monde. Et qui a exporté des savoirs, des horreurs, etc., mais aussi des formes institutionnelles, par exemple la forme frontière, la forme nation. Bon. Et il s'agit pas de régler des comptes de façon postcoloniale, infantile, mais il s'agit quand même de réfléchir au type de rapport que nous entretenons avec le reste du monde, du fait que nous avons été le point de départ de cette histoire-là.
Leila Makkala, elle est née dans le Queens, elle s'inspire du blues, mais aussi des musiques cajoun et du folklore haïtien, et c'est Dodidin. Cala, ça vous a bien plu, ça, Étienne Balibar. Oui, c'est pas mal, hein. Oui. Et c'est une, quand je disais qu'elle s'éteint, elle s'inspire de différentes musiques. J'ai dit Cajun, mais je crois qu'on dit plutôt Cajun, hein. Il me semble que j'ai commis une erreur.
Vous avez raison. Oui.
Vous, non, j'avais tort tout à l'heure. Ah, oui, bon. Cosmopolitique, c'est donc le titre du livre que vous publiez. Étienne Balibar, c'est le troisième tome de ses écrits. Un livre dans lequel vous ne parlez, vous racontez pas votre vie, hein. Il faut le préciser. Oui. Aux auditeurs qui pourraient le croire. Mais vous parlez de choses très, très intéressantes.
C'est ce qui m'arrive de temps en temps. J'ai fini par comprendre que c'était indispensable non seulement à la communication mais à la lucidité ou à la conscience de soi. Je suis obligé d'indiquer que si certaines questions me préoccupent, c'est parce que je les ai rencontrées d'une certaine façon. Ouais. Soit personnellement, soit par l'intermédiaire de ceux, comme Derrida que vous évoquiez tout à l'heure, à qui j'ai été le plus lié dans ma vie.
Louis Althusser, alors lui nous parle de Karl Marx et du rapport des hommes à la nature.
Marx dit, jusqu'à présent, le monde, les philosophes l'ont interprété de façon diverse. Il s'agit maintenant de transformer. Pour une raison fondamentale, c'est que le monde est lui-même transformation de soi. C'est que le monde est mouvement perpétuel. C'est que le monde est le devenir des sociétés humaines. Le devenir des pensées humaines. Le devenir des rapports des hommes entre eux. Le devenir des rapports des hommes à la nature. Et toute cette transformation pratique, qui est l'essence véritable de l'existence humaine, repose en définitive sur la pratique fondamentale, c'est-à-dire les rapports que les hommes entretiennent avec la nature, la façon dont les hommes s'attaquent à la nature, le type de rapport qu'ils entretiennent avec elle. Ce type de rapport change. Eh bien, lorsque Marx dit qu'il faut transformer le monde, il veut dire simplement qu'il faut que les hommes s'insèrent consciemment dans cette transformation du monde pour hâter la transformation qui est en cours. Il faut que les hommes s'insèrent pratiquement, politiquement, dans leurs organisations pour hâter pratiquement la gestation qui est en cours de nouvelles formes de rapport des hommes entre eux et de nouvelles formes de rapport des hommes à la nature.
Louis Althusser, là aussi, vous avez été proche, Étienne Balibar, d'Althusser. Vous avez écrit ensemble, d'ailleurs, Lire le Capital, hein, en 1965.
Avec Jacques Rancière, Pierre Machuel et Roger Establet. Nous étions ses élèves.
Vous étiez ses élèves.
Et il y en avait d'autres, d'ailleurs, qui ne figurent pas dans le volume et qui ont joué un rôle tout aussi important dans la préparation de ces textes. C'était le groupe d'élèves de l'École normale supérieure qui était allé trouver Althusser 2 ou 3 ans auparavant pour lui dire « Sartre nous a convaincus que le marxisme est l'horizon philosophique indépassable de notre temps, et vous nous faites des cours sur Hegel, Rousseau très important, qui sont les Platon, qui sont très intéressants, mais on sait que par ailleurs vous êtes un marxiste, et donc on aimerait bien créer avec vous une sorte de groupe de travail ou de réflexion, et en fait c'est ce qu'il espérait, donc on a fait ce groupe et on a fini par publier un livre tous ensemble, mais quand même... Althusser avait un talent assez exceptionnel pour, je dis pas pour faire croire, mais pour expliquer avec sincérité à ses élèves qu'il n'était pas lui le seul détenteur du savoir et que ce qu'on avait à faire ou à trouver, on allait le trouver ensemble. Ce qui est prodigieusement, évidemment, excitant et...
C'est un peu baïotique, non?
C'est
un peu ça.
C'était pas du tout le style de Derrida, justement, qui faisait des cours ex cathedra très passionnants, mais etc. Bon. Ouais. Alors évidemment, ça a créé entre nous, puis il y a eu des vicissitudes variées, ensuite chacun a suivi sa voie, mais enfin un rapport de coopération sans lequel, bien sûr, j'aurais rien fait de ce que j'ai fait.
Alors vous avez peut-être déjà, vous l'avez peut-être déjà eu entre les mains, il y a un livre qui sort tout juste, ou qui va sortir en tout cas dans les librairies dans quelques jours, Penser c'est dire non. Je ne sais pas si vous avez vu ce... C'est au seuil. C'est un texte inédit rédigé à la main par Derrida.
Ah oui.
C'était dans les années 60, au moment où il était assistant à la Sorbonne.
Oui.
Et il s'est penché donc sur cette phrase d'Alain, en fait, du philosophe Alain.
Oui.
Penser, c'est dire non. C'est une phrase avec laquelle vous êtes d'accord?
Ça mange pas de pain, je veux dire.
Mais encore.
Bon, mais alors,
c'est
attendez,
un peu court,
parce qu'on a quitté Althusser. Tant pis, tant pis pour Althusser.
Qu'est-ce que vous voulez? Alors,
je voulais dire simplement que je ne sais pas de quand date
cette interview.
C'est pas une interview, ça a l'air d'être une sorte de cours ou de conférence qui a dû être enregistrée. Mais on va pas en parler pendant des heures. Mais il me semble, je dirais aujourd'hui, si vous voulez, pas pour me distancer à tout prix, mais que elle me semble contenir à la fois ce qui est le plus aigu, le plus profond, d'une certaine façon, dans le matérialisme de Marx tel qu'Althusser le comprenait et l'expliquait, et ce qui ne tient plus la route. Hein, bon, alors ça se résume en, au fond en deux phrases. D'un côté, cette belle phrase du début de son intervention, le mot d'ordre de Marx, transformer le monde, prend tout son sens à partir du moment où on comprend que le monde lui-même est un devenir incessant ou un mouvement de transformation perpétuelle. Donc c'est d'une certaine façon l'opposé de l'imaginaire standard qui vient du 19e siècle, de l'opposition entre le conservatisme d'un côté et la révolution de l'autre, ou l'ordre et le mouvement. Il ne s'agit pas de mettre en mouvement ou d'introduire le mouvement de force dans quelque chose qui serait figé et immobile, mais au contraire de s'insérer. Il avait une image qu'il aimait beaucoup. Il disait l'histoire est comme un train en marche dans lequel on monte, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va, mais on monte dedans et on essaie de le faire changer de direction, ce qui, quand on y réfléchit, est assez baroque d'ailleurs, parce que faire changer de direction un train, bon, mais enfin bon. Passons. Bon, mais ça c'est profond. On peut le dire simplement, mais on peut aussi l'élaborer. En revanche, ce qui est, je dirais pas terrifiant, mais ce qui est problématique, hein, c'est l'accélération, hâter la transformation du monde en cours, et surtout s'attaquer à la nature. Bon, Althusser était un lecteur de Rousseau au moins autant que de Marx. D'ailleurs, on a édité il y a quelques années, c'est Yves Vargas qui avait ça, un cours qu'on a retrouvé, un enregistrement, c'est un cours magnifique sur le deuxième discours, le discours sur l'origine de l'inégalité, qui est un des sous-bassements de sa philosophie finale de l'aléatoire, justement de l'incertitude, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, il aurait pu, mais là, évidemment, s'attaquer à la nature, c'est vraiment faire de la nature l'objet inerte auquel l'industrie humaine et la puissance humaine s'appliquent de façon unilatérale. Bon, alors il n'y a pas besoin d'être Bruno Latour ou son interprète Patrice Maniglier ou
que
d'autres encore
que nous avons reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs,
Patrice Maniglier. Pour comprendre que ce discours n'est plus tenable. Ce qui ne veut pas dire qu'on renonce purement et simplement à l'idée d'une action de l'homme dans la nature et sur la nature. Mais bon, eh bien, alors dire non, oui, c'est
dire non, oui. Mais dire non,
mais
comment?
Ça mange pas le pain parce qu'il s'agit de savoir comment on dit non
mais
et à quoi on dit non.
Comment est-ce qu'on dit non? Parce que lever le poing ne suffit pas.
Il y a des circonstances dans lesquelles je pense que c'est absolument nécessaire de.
Non, mais il faut une stratégie. Il faut des moyens aussi pour dire non.
Un concept dont je me suis beaucoup servi, je l'ai pas inventé naturellement, bon, et qui recèle peut-être autant de problèmes que de difficultés que de clarté, c'est le concept d'insurrection. Hein, bon. Alors, évidemment, ça résonne de différents côtés. Les insurgents de la Révolution américaine ou les insurgentes de l'Amérique latine d'un côté, les révoltés ou les rebelles de l'autre. Donc, avant les plans, ou en tout cas en même temps que les plans et les stratégies, il faut qu'il y ait quand même quelque chose comme ce que Dante s'appelait le grand refus. Hein, le grand refus, il y a des choses insupportables, il y a des choses inacceptables. Dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, il faut bien savoir dire non, et la forme active de la négation, c'est pas des gestes simplement, mais c'est des actes. Donc j'y tiens beaucoup. Mais d'un autre côté, évidemment, alors vous allez, j'entends d'ailleurs déjà les rires de certains de mes amis ou de mes collègues ou de mes élèves. Ah oui, Balibar, c'est toujours un peu ceci et aussi son contraire, c'est l'homme qui essaie de tout tenir ensemble.
Mais c'est pas le en même temps.
Passons.
Passons.
Changeons de sujet.
Mais
je veux dire, faire de la politique,
oui,
hein, faire de la politique, c'est quelque chose de collectif.
Mais c'est impossible, hein, de philosopher précisément sans faire de la politique, au fond.
Oui, à condition de pas croire. Alors là, je vais emprunter aussi une autre référence parmi les grands anciens de la génération d'avant à qui vous me renvoyez, que je suis content d'avoir connu, mais j'emploierai volontiers la terminologie de Jean-François Lyotard, qui écrit dans Le Différent, dont il disait lui-même, c'est mon grand livre de philosophie, qu'il y a plusieurs phrases. Ça veut dire à la fois plusieurs modes d'énonciation, plusieurs façons de phraser, mais aussi évidemment plusieurs styles de discours qui sont et qui doivent rester hétérogènes entre eux. Donc bon, et donc la phrase politique, hein, bon, et la phrase éthique ou philosophique demeure hétérogène, que vous le vouliez ou non. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, la politique ne servirait à rien à la philosophie, parce que là je vais éviter de citer encore des références, mais une philosophie qui ne se mesure, si j'ose dire, que en miroir à la logique et aux constructions conceptuelles de son propre discours n'est pas vraiment de la philosophie. Aucun grand philosophe n'est resté enfermé dans un style unique. Il faut le choc de l'extérieur. Ça peut être des tas de choses, naturellement. Ça peut être la rencontre traumatique de certaines des manifestations de l'inconscient. Ça peut être l'amour, comme dit Alain Badiou. Je suis pas en désaccord avec lui là-dessus. Ça peut être la connaissance scientifique ou la technologie, mais c'est beaucoup et peut-être surtout la politique. Bon.
Mm-hmm. Mais à propos de politique, que pense le philosophe que vous êtes de la place et de la fonction de l'État ? On sait qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui et qu'hier aussi, d'ailleurs, nos actions n'ont pas à être encadrées par un État, et pourtant il faut bien qu'il régule, peut-être qu'il organise les choses.
Alors on pourrait dire, pour aller vite, que les traditions, les philosophies politiques conservatrices ont le culte de l'État, que les philosophies de révolutionnaires ont la détestation de l'État, et que le libéralisme est quelque part entre les deux, dans une sorte de pénombre ou de demi-jour, où l'État apparaît comme le mal nécessaire dont il faudrait bien pouvoir se passer. Bon, je suis tenté de renverser. De renverser les choses. C'est-à-dire que toutes les traditions de la... Et j'emprunte à d'autres, mais toutes les traditions, toutes les idéologies politiques de la modernité, le socialisme, le conservatisme et le libéralisme, partagent d'une certaine façon cette idée massive, si vous voulez, que... ce qui est le lieu à la fois de la vie, des échanges, de la productivité, de l'invention collective, etc., c'est la société, et que l'État, par rapport à ça, est une espèce justement de machine coercitive externe. Bon, alors il y a eu des philosophes pour donner à ça des interprétations grandioses, surtout quand ils étaient un peu matinés d'anarchisme, et l'anarchisme, évidemment, est une pensée très forte. Mais je pense que nous sortons d'une expérience celle de la pandémie, qui nous a obligés et qui nous oblige de plus en plus à penser les choses d'une façon moins mécaniste. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit
Mais est-ce que c'est
temps...
précisément la pandémie qui transforme en quelque sorte une politique en cosmopolitique ?
Alors, le texte final de mon livre est une tentative risquée, j'espère pas trop déconnante, pardonnez le mot familier, pour mettre à jour l'aspect cosmopolitique des questions qui ont été posées par la pandémie. Mmh. Et je suis parti. Bon, vous vouliez pas que je fasse de l'en même temps, mais là je vais en faire. Bon.
Je suis
parti du contraste entre deux déclarations. Alors là, on est vraiment dans la politique au sens le plus quotidien, qui ont été énoncées presque en même temps, un an à peu près après le début de la pandémie. Mmh. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, être réélu,
Ghebreyesus,
a eu cette phrase terrible, si on y réfléchit. Il a dit, vous voyez ce que c'est que la distribution inégalitaire des vaccins à l'échelle de l'humanité. Il y a une collusion entre les grandes entreprises pharmaceutiques qui les fabriquent et les États du nord de la planète, l'Europe, etc., qui les achètent par avance et qui se les réservent. Donc, le résultat, c'est que en Afrique, il n'y a pas de vaccin. Bon, c'est un apartheid vaccinal. Bon. Donc, et il a dit aussi, c'est suicidaire, enfin, en tout cas, c'est une politique absurde pour l'humanité. l'humanité tout entière, parce qu'on sait bien que les variants vont naturellement continuer de surgir là où on n'aura pas pu vacciner. Bon. Et au même moment, le président de la République française, qui vient d'être réélu, avait eu cette phrase extraordinaire, il faut savoir reconnaître, qui n'a eu aucune conséquence pratique, hein, bon, il faut savoir reconnaître que certains biens et certains services ne doivent pas être régulés dans leur utilisation par les lois du marché, doivent sortir des lois du marché, mais sont des biens publics ou des biens communs, il y a les deux terminologies de l'humanité. Alors, j'ai essayé de discuter, en effet, la corrélation de ces deux exposés, et du coup, j'ai abouti à mes risques et périls à la fin du chapitre, à l'idée que ce dont nous avions besoin, c'était en effet de commun, et donc d'une sorte de communisme vaccinal à l'échelle de l'humanité tout entière. Mais ça veut pas dire qu'on va se débarrasser de l'État, au contraire, ça veut dire qu'il faut assujettir l'action de l'État à une hiérarchie de valeurs, disons, dans laquelle le sanitaire ou le médical n'est pas subordonné au commercial, mais l'inverse. Hein, bon. Et alors, si vous voulez, je finis là-dessus, mais ce qui a été au cœur de toute une série de débats, et qui devrait l'être, je l'espère, plus que jamais en ce moment, à partir de l'expérience du Covid à la fois de la mobilisation extraordinaire et de la souffrance du système hospitalier français, c'est le service public. Et la question qu'il faut se poser, qui est une question de philosophie politique en même temps qu'une question de politique tout court, c'est de savoir si on pense que le service public, c'est la même chose que l'État. Et on ne peut pas répondre non, ça n'a rien à voir, parce qu'il est clair en tout cas que dans la société où nous vivons, le service public est régulé, légiféré, alimenté financièrement par l'intermédiaire de l'État. Et je pense qu'il est très important aussi de prendre conscience du fait que non seulement il y a un État d'en bas, les soignants, les professeurs, etc., mais il y a des exigences de démocratisation de la médecine qui ne viennent pas de l'État et qui même le met en question quand c'est nécessaire.
Le romancier, poète et philosophe Édouard Glissant, c'était en 1994.
Moi, je crois à ce que j'appelle la parole archipélique, ou la pensée archipélique, qui est la pensée des endroits fragiles, des endroits de rencontre, de passage, des isthmes, des presqu'îles, des archipels, qui n'ont pas eu une masse continentale, une épaisseur. Et je crois que on assiste aujourd'hui à un effondrement des pensées continentales qui sont des pensées épaisses et des pensées de système. On n'a qu'à ce modèle-là. Et que les pensées ambiguës, fragiles, frêles, mais ouvertes, ce que j'appelle des traces, par opposition à des routes ou à des autoroutes, eh bien, que tout cela se constitue un peu partout dans le monde à l'heure actuelle. Le monde s'archipélise, les continents s'archipélisent. Si l'Europe se fait, elle se fera avec des Basques, des Alsaciens, des Catalans. Il y aura une archipélisation de l'Europe et non pas peut-être avec des nations.
C'est beau ce que dit Édouard Glissant.
Oui, hein, c'est très beau. Un des grands, enfin, on peut pas rencontrer tout le monde dans sa vie, tous ses contemporains, c'est impossible. Bon, mais je regrette de ne jamais avoir rencontré Édouard Glissant en personne, même si j'ai connu beaucoup de gens qui l'ont côtoyé de près. Mais la métaphore de l'archipel est très intéressante parce que c'est un schème, comme diraient les philosophes. Hein, bon, c'est un schème géographique, spatial, plus généralement, pour essayer de penser la façon dont les parties du monde se rapportent les unes aux autres. Ça va contre une certaine façon d'utiliser le modèle de la frontière. Et non par hasard, évidemment, probable, ça lui est inspiré de façon poétique par l'intuition, la vue de son propre lieu d'origine et de naissance, c'est-à-dire par la Caraïbe. C'est une façon de faire du monde tout entier une Caraïbe.
C'est la mondialisation du
monde. Oui, mais c'est pas du narcissisme, c'est pas du nombrilisme. C'est véritablement une invention à la fois conceptuelle, je dirais, et poétique. Bon. Mais il est évident que dans le livre que vous allez à la bonté, la gentillesse de
d'évoquer... La grande bonté, oui, vous pourriez dire quand même, vous exagérez, la bonté, la grande
périodiquement bonté. Pendant cette conversation que vous avez devant vous sur la table. Quand j'ai essayé, en convoquant mes lectures et les années d'enseignement que j'avais consacrées à tout ça, de retracer la généalogie, le chemin, la trace, c'est un très beau mot de Glissant, justement, meilleur que celui de route, hein. Bon, il a absolument raison sur ce point, qui conduit des cosmopolitismes de l'âge classique et de l'âge romantique à une cosmopolitique au sens moderne du terme, en particulier autour de la question de l'égalité et de l'interpénétration ou de l'interaction des ou de la traduction mutuelle des cultures les unes dans les autres, évidemment, je n'ai pas pu ne pas me référer à Glissant comme un modèle particulièrement inspirant.
Cosmopolitique, donc, qui est une sorte de politique du monde, hein. Je fais très court, c'est vraiment à l'âge. Oui. Est-ce que ça peut être une politique aussi de l'espèce humaine? Ou est-ce que c'est précisément seulement une politique de l'espèce humaine? Élève Balibar, vous avez 2 minutes 30 parce qu'on a encore plein de choses à dire. Je vous fais rire. Hein.
Non, vous ne me faites pas rire. Vous allez au cœur de ce qui me paraît la question. Il y a deux façons classiques, en allant très vite, d'essayer de penser l'espèce humaine comme quelque chose d'unifié. Bon. Ou bien comme Kant et toute la... ça vient des stoïciens, etc. C'est une idée. C'est une idée et un idéal en même temps, et une destination. Donc, l'espèce humaine, c'est cette belle idée sous laquelle nous rangeons à la fois notre vie et le lien que nous entretenons avec tous les autres hommes, d'où en particulier l'insistance sur la dignité des valeurs, etc., que je considère bon. Ou alors, vous êtes darwinien, donc plus naturaliste, et vous pensez que ce qui définit l'espèce humaine, c'est sa généalogie et la place qu'elle occupe parmi d'autres espèces. Bon. Et il me semble que la question est reposée aujourd'hui aux philosophes parce qu'elle est posée, c'est une question anthropologique, mais parce qu'elle est, elle nous est posée dans la vie elle-même. Ce que nous avons de commun avec d'autres hommes, c'est la solidarité, si vous voulez, comme dirait Judith Butler, c'est la vulnérabilité, c'est le fait que nous ne pouvons pas vivre sans nous faire du mal et donc aussi sans nous faire du bien, hein, sans nous blesser, sans nous soigner les uns les autres. Mais d'autre part, et surtout, c'est le fait que nous sommes différents. Je veux dire, au lieu de penser l'appartenance comme une espèce de grande similitude, qu'on extrait de toutes les différences en les mettant provisoirement de côté, de façon à énoncer ce qui est le même chez nous tous. Il est, je pense, nécessaire, et ça fait partie de ce projet de cosmopolitique, d'essayer de repenser le concept ou la catégorie, et donc aussi la valeur de l'espèce humaine, en termes d'interdépendance et de différence. Seulement, les différences, il y a beaucoup de façons de les utiliser dans la pratique. Bon, ça, d'un côté, si vous voulez, ça touche au ressort même de l'affectivité ou de la sympathie, et de l'autre, ça plonge dans le monde effrayant des discriminations, c'est-à-dire toutes les différences sont susceptibles de devenir des discriminations, et d'être du même coup aussi figées, catégorisées.
Mais l'idée même que nous nous faisons, vous parliez tout à l'heure de Bruno Latour, mais l'idée même que nous nous faisons de notre humanité, elle est en train de changer, et elle est aussi, on le voit bien, fonction du vivant. Nous ne sommes pas un tigre ou un arbre, et pourtant.
Alors effectivement, j'ai dit aussi dans ce texte, et je ne fais pas mystère d'avoir appris ou d'avoir trouvé ce genre d'idée chez des auteurs comme Latour ou d'autres, ou Descola ou d'autres encore. Bon, j'ai pris la formule de Derrida qu'on l'a entendu citer tout à l'heure. Hein, parler une langue, c'est parler plus d'une langue. Hein, bon. Et j'ai essayé de la transposer, à mes risques et périls, à la question de l'espèce humaine. Donc j'ai dit l'année dernière au Forum du Monde, ça va être publié un de ces jours, appartenir à l'espèce humaine, c'est appartenir à plus d'une espèce. Et je pense que c'est la leçon de l'écologie et de l'anthropologie et de l'anthropologie contemporaine. Bon. Mais, car il y a toujours des mais.
En même temps.
En même temps, oui. Je tiens beaucoup à ce que justement cette pluralité soit respectée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne fusionne pas la multiplicité des espèces dans une espèce de grande symbiose, et croyez bien que je ne cherche pas à caricaturer qui que ce soit, mais justement, et à ériger cette notion cette notion du vivant en notion quasi métaphysique, pour ne pas dire théologiquement. J'avais été très frappé, alors il y a des gens très intelligents qui, je comprends, et c'est intéressant de discuter avec eux, qui vont dans ce sens. Mais j'avais lu dans Le Monde, il y a quelques mois, un manifeste dont le contenu politique me semblait absolument justifié contre la déforestation industrielle et agriculturelle, qui était signé par des philosophes, des jardiniers, des forestiers, des biologistes, etc. Mais comme ils avaient cherché une formule frappante, je crois qu'elle vient de Baptiste Morisot, qu'il a utilisé dans un de ses livres, ils avaient mis ça sous le titre suivant « Nous sommes le vivant qui se défend ». Et le vivant en question, c'était les hommes, les arbres, les loups, c'est bon. Alors tout ça existe, c'est ça, appartenir à plus d'une espèce. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, si nous le concevons comme la propriété exclusive de l'espèce humaine, comme une espèce de milieu extérieur sans personnalité ni activité, on va à l'autodestruction. Mais d'un autre côté...
On est déjà dans une catastrophe, donc l'autodestruction,
je ne vois pas davantage, je vois surtout des inconvénients à noyer la question de la spécificité ou de l'originalité ou du rôle de l'espèce humaine dans une catégorie, si vous voulez, qui à nouveau résorbe la différence.
Étienne Balibar, c'est donc le troisième tome de ses écrits. Il y en aura d'autres ?
Oh, les éditions La Découverte m'ont tendu pas une planche savonnée, mais une perche en sucre. Enfin, je veux dire, ils m'ont dit, tu pourrais peut-être consacrer la fin les forces que tu as encore, etc., à rédiger une série de volumes. Alors, on a fait d'écrits, bon, autour de thèmes que tu as travaillé, mais au cours de ta vie. Bon, alors, on a fait un plan mégalomania qui comporte 6 volumes. Bon,
6 volumes, donc il y en a encore 3 à venir.
Oui, je suis sûr que je n'irai pas jusqu'au bout.
Pourquoi? Vous dites ça parce que justement vous irez jusqu'au bout.
Je vais me fatiguer.
Mais on s'en fiche que vous vous fatiguiez. Ce qu'on veut, c'est avoir les livres.
Je voudrais essayer de faire au moins encore le 4e après le 3e, qui portera le titre redoutable « L'avenir des racismes ».
L'avenir des racismes.
Oui, ça vient de Lacan. Je m'en suis aperçu après. Toujours, on croit trouver une formule et on s'aperçoit qu'on l'a simplement hérité.
Et voilà. Vous êtes en train d'y travailler ?
J'y réfléchis.
Quand vous n'êtes pas invité à la radio, évidemment, et qu'on vous distrait. En tout cas, merci beaucoup, Étienne Balibar, d'avoir été notre invité ce soir. Cosmopolitique, des frontières à l'espèce humaine. C'est donc le 3e tome de vos écrits et c'est publié aux éditions La Découverte, L'horizon des possibles. Merci à vous.
Merci.
Après les informations de 21h, unique en son genre, avec Julia Foyce.